Frères et sœurs, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de la part de l'Esprit-Saint, notre Consolateur. Voici donc le troisième jour de cette semaine sainte, commencée dimanche. Nous poursuivons notre marche à la suite de notre Seigneur durant la dernière semaine de sa vie terrestre. Aujourd'hui, c'est Luc au chapitre 21 qui nous fournit le sujet de notre méditation. Trois éléments se dégagent. Le premier élément qui se dégage de ce chapitre, c'est que Jésus-Christ annonce la destruction du temple de Jérusalem et il donne aussi des signes qui annoncent la crise. Et puis, deuxièmement, le bourgeonnement du figuier en hiver. Et enfin, troisièmement, une exhortation à la vigilance et à la prière. Je voudrais, avant d'aller plus avant, attirer notre attention sur le fait que nous sommes vraiment des privilégiés, mes frères et sœurs. Au miracle, Dieu a fait de nous ses enfants et Jésus-Christ est devenu notre frère. Tout cela a été rendu possible grâce à son œuvre accomplie durant la semaine sainte, particulièrement ce qui s'est passé le vendredi saint et qui a débouché sur le dimanche matin à Pâques. Prenons conscience des retombées de la semaine sainte, à savoir Jésus est notre frère, notre joie, notre lumière, le prince de la vie. Il est avec nous au temps de l'épreuve, il est avec nous dans le bonheur même, le roi qui nous aime, qu'en lui donc notre joie demeure. Je vous avais dit, il y a quelques jours, il y aura un profond sentiment de reconnaissance durant cette semaine. Alors, exprimons d'emblée notre reconnaissance à Dieu par ce merveilleux cantique « Ô Jésus, mon frère ».
Silence, un désir.
Prions. Dieu saint et miséricordieux, tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Nous t'en prions, garde-nous de toute propre justice et donne-nous assez d'humilité pour découvrir à travers les méditations proposées ta grande miséricorde. Qu'ainsi, notre seul désir soit de te servir dans la reconnaissance pour la grâce imméritée qui nous est faite en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons donc la première lecture qui sera faite dans ce chapitre 21 de Luc, versets 5 à 19.
Comme quelqu'un parlait du temple, qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ?» Jésus répondit « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi ». Et le moment est arrivé. Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin.
Comme je l'annonçais au tout début, c'est la présence du temple qui est d'ailleurs bien présent de manière tout à fait particulière. Ce matin-là, c'est une journée très chargée. Jésus passe une grande partie de son temps au temple, justement. Et si l'on compare Luc aux autres évangélistes, on note qu'il concentre fortement sur le temple ce qui a trait aux derniers jours de Jésus avant le drame final. Je vous invite à nous arrêter quelque temps sur le thème du temple. Il y a de la part de Luc, sans doute, un message qu'il adresse à tous ses lecteurs, nous y compris. La récurrence du temple dans ce récit traduit le désir du Seigneur d'investir ce lieu pour annoncer un message important. Quelques passages, à titre d'exemple. Pendant les jours, il était dans le temple, enseignant sans cesse, et il passait ses nuits au mont des Oliviers. Tout le peuple se levait de bon matin et venait auprès de lui dans le temple pour l'entendre. Au terme de la montée vers Jérusalem, indirectement, il a été question de sa destruction, c'est-à-dire la destruction du temple. Et cela est exprimé en ces termes. Lorsqu'il approcha, ayant vu la ville, il pleura sur elle en disant « Des jours viendront et tes ennemis t'environneront d'une palissade, ils feront ton siège et t'accableront de partout, et ils ne laisseront pas pierre sur pierre en toi. » Lorsque il entre dans Jérusalem, le premier geste que Jésus accomplit dans le temple, c'est de chasser d'abord les vendeurs du temple. Puis un long discours a résumé l'enchaînement des refus et des ruptures qui ont amené à l'échéance du jugement et de la condamnation. Il peut être utile de rappeler la question qui était posée dès les premiers versets du chapitre 20 et qui domine tous les sujets. Et cette question, c'est celle-ci. Dis-nous, par quelle autorité tu fais ceci et qui est celui qui te donne cette autorité ? Le bâtiment qu'a contemplé Jésus, c'est-à-dire le temple et ses apôtres, n'avait pas la splendeur du premier temple, construit par Salomon. Celui-ci avait été détruit en 587, puis reconstruit modestement au retour de l'exil. Pour se faire accepter par son peuple, au début de notre ère, le roi Hérode avait entrepris des grands travaux d'agrandissement et de rénovation. Ils ne furent terminés qu'en 64. Et 6 ans plus tard, en août 70, le bâtiment était détruit lors du siège de Jérusalem. Pour les Juifs, le temple était porteur d'un double symbole. Le premier symbole représentait la présence de Dieu. Et le deuxième symbole, c'était l'unité. À propos de la présence de Dieu, dans toutes les religions, le temple est le lieu sacré où la divinité est censée se rendre présente aux hommes pour recevoir leur culte et les faire participer à ses faveurs et à sa vie. Sans doute, sa résidence ordinaire n'appartient-elle pas à ce monde-ci ? Mais le temple s'identifie en quelque sorte avec elle, si bien que, grâce au temple, l'homme entre en communication avec le monde des cieux. La majorité des Juifs considéraient le temple comme la maison de Dieu, lieu unique de la présence de Dieu au milieu du peuple qu'ils s'étaient choisi. Il assurait plutôt le temple la pérennité de l'alliance ancienne. Alors, annoncer la ruine du temple, ce n'était donc pas annoncer un simple malheur humain. L'événement avait nécessairement une portée religieuse. C'était plutôt prédire la rupture de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. C'était en même temps annoncer le rejet de ce peuple par Dieu. Les prophètes n'avaient pas manqué de présenter ainsi la destruction du premier temple en 587. Mais ils avaient complété leurs oracles de malheur par des perspectives de libération et de restauration. Nous le voyons, ce n'est pas une simple destruction matérielle d'un édifice qui est en jeu ici. Jésus est en train de dire à ses auditeurs qu'une ère nouvelle a commencé. Un changement de paradigme est en cours. C'est ce qu'il disait à la Samaritaine. L'heure vient, je cite, et elle est déjà venue, où ce ne sera ni au mont Carizim, ni à Jérusalem qu'on adorera le Seigneur. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. En d'autres termes, en annonçant la destruction du temple, Jésus est en train de dire le centre de gravité quant à la relation entre Dieu et les hommes ne sera plus un bâtiment, ni un lieu, mais une personne, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. L'ancienne alliance sera caduque. Jésus inaugurera une nouvelle alliance. Jésus est donc incontournable dans la relation entre Dieu et les hommes. On peut donc comprendre la vive réaction des responsables religieux. Jésus déstabilise tout leur système et fait dégringoler leur autorité. Le deuxième symbole concernant le temple, c'est le symbole de l'unité. L'unité du peuple élu. Le temple permettait aux croyants éparpillés dans le monde entier de manifester donc leur unité, l'unité de leur foi commune en Yahvé. Cependant, Jésus est au premier degré très grave. Il parle donc de détruire ce temple qui est l'expression de l'unité de ce peuple. Voici les signes annonciateurs de la crise que donne Jésus. Jésus va ensuite égrener des signes divers annonciateurs de la crise qui débouchera sur la ruine du Temple et de Jérusalem. Les paroles inouïes tombent une à une. Les images et les paraboles se sont enchaînées et s'attirent l'une l'autre. Alors il parle des sectes trompeuses qui vont proliférer. Des chrétiens seront persécutés et seront exécutés. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Et partout, dans le même temps, c'est vrai, les œuvres d'amour seront battues en brèche. À la fin, il dit, « En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Voilà donc les signes qui précéderont la ruine.
Nous lisons à présent l'Évangile de Luc, chapitre 21, versets 20 à 33. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis, il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas.
Et voici maintenant qu'il parle de la ruine de Jérusalem même, la ville. Très forte parole sur la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Sur le serviteur fidèle qui veille au retour de son maître. Puis ce sont des paraboles, des divierges, peut-être pas chez Luc, mais chez d'autres évangélistes. La parabole des talents et celle du jugement. des nations avec des brebis et des boucs. Mais ce qu'il dit ici, et qui est intéressant, c'est que Jésus met ses disciples en garde pour qu'ils aient une attitude de veille. Pas de sommeil spirituel, mais de veille. Mais pour revenir un petit peu à la destruction de Jérusalem, une quarantaine d'années après donc les paroles de Jésus, c'est-à-dire en l'an 70 de notre ère, le général romain Titus accomplissait la prophétie en détruisant Jérusalem, provoquant une diaspora qui a duré plus de 20 siècles, car c'était seulement en 1948 que s'est reformé l'État d'Israël et qu'il a été reconnu comme tel par les Nations Unies. Aucune parole du Seigneur n'a été vaine. Nous aurions donc tort de négliger tout ce qu'il avait dit, y compris le jugement dernier et la fin du monde lorsqu'il reviendra en gloire. Nous avons tout intérêt à nous préparer à être prêts chaque jour qui peut être pour chacun de nous le dernier. Et la parabole des 10 vierges ne nous invite-t-elle pas à la vigilance? Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as mis en garde contre les séductions de la puissance des ténèbres en nous prédisant qu'il y aurait des faux prophètes et des faux messies. Nous t'en prions, accorde à ton Église d'être toujours illuminée par ton esprit et attentive à ta voix, afin qu'elle ne suive pas ceux qui cherchent à l'égarer, mais se tienne prête pour le jour où tu viendras dans ta gloire. Toi qui es béni au siècle des siècles. Amen.
Vers toi, Seigneur,
qu'il parle des perspectives cosmiques qui vont s'effondrer, des tremblements de terre, des famines, des pandémies, des catastrophes diverses, Jésus nous invite à regarder le figuier et les arbres qui bourgeonnent. N'est-ce pas là des choses insignifiantes par rapport au reste de tout ce qu'il vient de dire? Et pourtant, c'est là que le Seigneur nous invite à diriger nos regards. par cette étonnante et modeste parabole du figuier, le Seigneur Jésus n'est-il pas en train de nous inviter à considérer autrement la vie? Quand tout va mal dans notre vie, dans notre monde, quand pour des raisons réelles ou imaginaires, nous broyons du noir parce que nous avons le sentiment que tout s'effondre autour de nous, le Seigneur Jésus nous invite à convertir le regard que nous portons sur notre existence vers les petits bonheurs, les petits commencements, les petites lueurs d'espérance que Dieu nous tend dans notre quotidien, notamment un bourgeon de figuier en hiver. Il est vrai que par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple, que représente le progrès de quelqu'un en revalidation qui commence à marcher un peu plus fermement? Par exemple, Jésus est en train de nous dire « Tant que ça vient de Dieu, c'est un signe d'espoir, un signe d'espérance. Aussi petit soit-il, c'est une marque d'amour de sa part et cela mérite d'être apprécié. » Cela signifie aussi que nous pouvons faire de nous-mêmes, nous pouvons faire aussi aux autres ce que Dieu nous fait, c'est-à-dire leur offrir des signes d'espérance, des signes de vie, des signes d'amour, etc. Aussi petit soit-il.
De notre méditation d'aujourd'hui se fera dans Luc 21, versets 34 à 36.
Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible. Au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et ce que jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir, et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme.
Il est clair que Jésus parle de la fin du monde, de sa seconde venue, et de l'instauration définitive et complète de son règne. Il appelle là la communauté croyante à la vigilance dans l'attente du retour du Seigneur en gloire. Puisque le Seigneur n'est pas encore revenu, ce message demeure d'actualité pour l'Église aujourd'hui. Puisque personne ne connaît ni le jour ni l'heure, il faut donc se préparer à la parousie, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur en gloire, non en calculant la date, mais en étant constamment à l'écoute des avertissements et recommandations du Seigneur et prêt à agir en conséquence. Prions. Seigneur notre Dieu, fais-nous la grâce d'être vigilants dans l'attente de Jésus-Christ, qui doit venir dans la gloire de son règne. Donne-nous de l'aimer et de le servir dans ce monde qui passe et de pouvoir entrer avec lui au dernier jour dans la joie sans fin de ton royaume. Exauce-nous pour l'amour de son nom. Amen. Jésus vient de parler de la ruine du temple, de la fin du monde, des paraboles eschatologiques et du jugement dernier. Telles sont les pensées graves et le long avertissement de ce soir. Quand la nuit est complètement tombée, Jésus se lève et avec ses disciples, il va passer la nuit au Mont des Oliviers. Judas, note Jean dans son évangile, connaissait aussi l'endroit. Dieu est notre allégresse, notre espérance. Qu'il vienne réveiller la vie en nous, qu'il vienne rafraîchir la vie, qu'il vienne l'apaiser. Et avant de nous séparer, chantons donc « Dieu, mon allégresse ».
Dieu, mon allégresse, viens par ta jeunesse, réveiller ma vie, mes années se passent, arrête.
En terminant, recevons donc la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Rendez-vous demain, même heure, si Dieu le veut. Bonne soirée.